Cette semaine à la vie en BD, on passe une heure avec Voro et François Lapierre autour de l'agent double. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous. Dernière émission d'ailleurs de notre saison radiophonique 2022-2023. 38 émissions qu'on a eu le plaisir de vous proposer au fil de la dernière année, avec différentes formes, avec différents formats, avec différents types de rencontres. Et vous le savez, ben, des fois il y a des albums dont on a envie de parler aussi avant que ça se termine. Évidemment, on reviendra vers l'automne. Il y a beaucoup d'albums dont on n'a pas traité, que je ferai en rattrapage perpétuel. Mais il y en a parfois qu'on se dit, ben, OK, celle-là, je tiens absolument à en parler avant qu'on se quitte. Et c'est le cas d'un récit qui s'appelle « L'agent double ». C'est Devoreau et François Lapierre du côté des éditions Paquet. Un récit qui met bien de l'avant, je pense, le potentiel de la BD, la force de la narration autour de la santé mentale aussi. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments à décortiquer, à explorer autour de cet album qui est sorti un peu plus tôt cette année. Donc, on est quand même déjà un peu en mode rattrapage. Alors, ben, on va plonger dans cet album et je mets toujours en fait une petite précision. Évidemment, on va en jaser longuement. On va tenter de ne pas divulgâcher quoi que ce soit. On ne divulgâchera pas la fin, mais ça se peut qu'on laisse aller quelques petits détails qui pourront teinter votre lecture. Alors, si jamais vous abordez l'émission en vous disant « Ah, mais je pense que je vais la lire et je vais la lire entièrement vierge de toute considération », dans ce cas-là, je vous dirais « Mettez la balado sur pause maintenant ». Allez chez votre libraire en vous disant qu'à peu près tout le monde, incluant moi, va vous dire que c'est une excellente et une extraordinaire bande dessinée, donc vous pouvez lâcher sans crainte. Et ensuite, revenez-nous pour écouter un peu, décortiquer, analyser et faire l'histoire de cet album. Alors, on ferme la parenthèse. Les deux auteurs, illustrateurs, scénaristes de l'agent double sont avec moi. Donc, François Lapierre, bonjour.
Bonjour, Raymond.
Vincent Rioux-Voreau, bonjour.
Salut.
Alors, à la base, en fait, si on fait un peu l'histoire de cet agent double-là, de ce que j'en comprends, c'est né d'abord et avant tout de votre amitié. Ça fait une vingtaine d'années que vous vous connaissez et ça fait un petit bout de temps que vous dites « mais semble, ça serait le fun de faire un projet ensemble ». Mais dans le contexte d'un projet où les deux, vous avez envie aussi de dessiner, les deux, vous avez envie de participer, je dirais, à part presque égal, si on peut dire, et les deux, vous avez des styles quand même assez différents. Donc, François Lapierre qui est un peu dans l'imaginaire, dans l'évocation, et on l'a vu avec ses différentes séries dans le passé. Vincent Rioux, ton style quand même très réaliste au départ. Et donc, j'imagine que la première étape, au-delà de se dire « on aimerait faire quelque chose ensemble », c'est trouver le bon projet pour faire quelque chose ensemble.
Tout à fait, tout à fait. On a commencé à peu près en même temps, moi puis François. On s'est connus au Festival BD de Québec à l'époque dans le centre d'achat. On dédicassait un à côté de l'autre. Puis la première soirée, on est déjà devenus bons copains. On est allé prendre une bière ensemble. Puis on s'est revus plusieurs fois par année à chaque festival. À l'époque, hein, il n'y avait pas énormément d'auteurs. Puis on se rencontrait un peu partout dans les festivals, à chaque festival. Puis d'année en année comme ça, on est devenus des bons amis, puis on a décidé de faire quelque chose ensemble un jour, mais il fallait avoir le contexte pour être capable de fusionner nos deux styles. De là est venue l'idée de travailler avec un personnage qui a un peu une double réalité, un schizophrène. Notre personnage principal, il nous permet d'aller dans un univers totalement flyé, de rentrer un peu plus dans le monde à François, sans vouloir insinuer que François...
Non, je prends comme un compliment, c'est correct.
C'était un peu un prétexte pour justement avoir un personnage principal qui nous permettait de marier nos deux univers ensemble.
Et ouais. Il faut dire qu'à l'époque aussi, François Lapierre était beaucoup du côté de la couleur, en fait. C'est là qu'on l'a vu passer. C'était à l'époque où, entre autres, tu colorais Magasin Général et autres. Parce que le projet lui-même, la BD vient de sortir il y a quelques mois, mais le projet est en gestation depuis pratiquement quoi, 7-10 ans. Donc, il y avait une volonté, j'imagine, Vincent, d'aller chercher François pour le ramener aussi un peu vers le dessin, pour mettre une parenthèse à cette pause coloration, si on peut dire.
Ben, tout à
Ben
fait,
oui.
parce que moi, je trouvais que le style de François était sublime. Je trouvais que c'était un talent gaspillé un peu de l'avoir ne faire que de la couleur. Et puis, je voulais lui donner le petit coup de pied là, pour qu'il retourne au dessin. Ce qu'il a fait par lui-même avec les années hein, sur d'autres projets aussi. Mais je voulais vraiment qu'on travaille ensemble pour qu'il se remette sur ses planches comme auteur complet. Puis qu'on puisse revoir son travail comme à l'époque de Sagana.
Oui, parce que quand Vincent m'a approché il y a des années, j'étais effectivement les deux pieds joints dans la coloration. Je n'avais même pas commencé Chronique sauvage encore. J'étais peut-être en train de le faire en gestation. Donc, la baie du lac, ça n'existait pas encore, quoi que ce soit. Donc, oui, de dire OK, sauf qu'au début, je pensais que vous voulez m'approcher pour faire la coloration de son album. Genre, j'en fais tellement que non, non, moi, je vais me remettre au dessin. Mais en fait, c'est ce que Vincent voulait que je fasse aussi, regarder le dessin. Donc, le défi, ça a été, comme disait tout à l'heure, de trouver le véhicule qui nous convenait et nos deux styles graphiques. Mais ouais, ça m'a donné un bon. À un moment donné, je doutais beaucoup de. Tu sais, Sagana, ça avait été annulé de façon assez cavalière et tout. Et de me mettre à travailler pour des gens comme Loisel, les gens d'Outil, des gens de très haut niveau. Mais c'est un autre coup pour la confiance narrative, la confiance du dessinateur que j'étais, tu sais, dans le sens, OK, ouais, je ne peux pas tout à fait. J'avais beaucoup de doutes intérieurs. Tu sais. Donc, des amis comme Vincent et Pat Boutin par la suite m'ont beaucoup aidé à reprendre confiance en moi, en fait.
Et le véhicule, en fait, on en a donné quelques termes. Je vais peut-être résumer l'histoire à la base. Dans le fond, c'est l'histoire de l'agent double, c'est celle d'un homme, Jasmin, qui est atteint de schizophrénie paranoïde et qui va s'imaginer, dans le fond, que sa belle-sœur, Sarah, a une relation amoureuse avec son psychiatre et que ces deux personnages comploteraient pour tuer son frère. Donc, c'est le résumé au plus simple. Mais évidemment, on l'a dit, c'est une histoire qui est travaillée à quatre mains et dans laquelle, mais dans le fond, il y a deux univers qui se côtoient. Donc, il y a la réalité, celle que vous et moi, on verrait si on croisait Jasmin au dépanneur. Et en parallèle, eh bien, il y a celle que Jasmin vit, lui, de son côté, l'interprétation qu'il se fait de la réalité. Et c'est là qu'on comprend, mais justement, que l'adéquation entre les deux styles se fait où le côté plus imaginaire, plus fantastique va évoluer dans l'imaginaire, dans le fond, de Jasmin. Et Vincent va évoluer dans le réalisme, donc, de la situation telle que vécue. Le concept s'est imposé un peu comment, dans le fond, on a compris, vous cherchez un véhicule. J'imagine qu'à un moment donné, c'est l'étincelle, il y a quelque chose qui a fait, et je pense qu'il est venu de toi, Vincent, au départ de ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qui t'a amené vers ce sujet-là au départ et vers.
Moi, j'ai toujours dit, quand on raconte une histoire, on est bon quand on parle de ce qu'on connaît, de ce qu'on a un peu vécu. C'est très difficile de raconter des histoires, qui se passent dans des contextes historiques ou des pays qu'on ne connaît pas. Ça demande énormément de recherche. J'ai déjà fait, puis c'est des boulots, assez conséquents. Donc, moi, j'en avais un peu marre de travailler sur des projets historiques. Je voulais travailler sur une histoire, une bonne histoire qui se déroule tout simplement en 2022-2023. Et quand j'ai décidé de travailler avec un personnage principal qui vit avec la schizophrénie, ben effectivement, je me suis bien entouré pour être capable de respecter le sujet et d'en parler comme il faut. Moi, je donne des ateliers de dessin depuis plus qu'une vingtaine d'années. J'ai un de mes amis qui est schizophrène, mais deux amis en fin de compte qui vivent avec la schizophrénie. Et je leur ai fait lire le scénario. J'ai un de mes élèves dans mon cours de dessin qui était psychiatre, qui est toujours psychiatre, puis il n'est plus dans mon cours de dessin aujourd'hui, mais à l'époque, je lui avais fait lire le scénario aussi. Et puis, je m'étais vraiment pâté comme ça pour essayer de parler du sujet de la manière la plus simple possible pour pas choquer le monde. Mon but, c'était vraiment d'ouvrir une porte à une discussion. Je voulais pas prendre position, puis commencer à essayer d'être un petit peu de dire aux gens comment penser. Je voulais juste avoir un beau personnage bien développé. Ben, respecter le sujet, mais je voulais surtout avoir une belle histoire. Le personnage restait un peu secondaire. Il aurait pu vivre avec un autre problème de santé mentale. Disons qu'on a choisi un peu celui qui est le plus spectaculaire à dessiner, effectivement, pour avoir une histoire la plus colorée possible. Puis après ça, ben, j'ai approché Santé mentale Québec-Bas-Saint-Laurent, ils m'ont parrainé pendant toute l'écriture du scénario. Ça fait que j'ai toujours essayé de rester très, très, très proche de gens qui pouvaient me dire si ont dépassé une limite ou quoi que ce soit, parce que ça reste quand même une peur hein, quand on travaille avec des sujets un peu lourds comme ça. Et puis, en écrivant l'histoire, ben, ça s'est déjà fait des histoires au cinéma, en littérature, des histoires qui traitent de personnages qui vivent avec la schizophrénie. Et j'ai dit, ça serait incroyable d'utiliser l'album de bande dessinée comme concept, parce qu'au cinéma ou en littérature, c'est impossible d'illustrer au même moment deux réalités en même temps. Ça ne se fait pas. Donc, j'ai dit, la bande dessinée, c'est le seul objet qui permet d'avoir toujours sous les yeux deux pages en même temps. Puis depuis que je suis petit, moi, je tourne la page et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de scanner les deux planches. Hein. Je pense que tout le monde doit le faire. On sait qu'il faut commencer par la première case en haut à gauche, puis pas trop tricher pour ne pas se faire voler le punch, mais on ne le fait jamais. On scanne les deux pages en même temps, on regarde un peu ce qui va se dérouler sous nos yeux, puis après, on commence à lire. Mais j'ai dit, pourquoi pas utiliser, maximiser cet effet-là en, à chaque fois qu'on tourne la page, on a deux séquences parallèles qui se déroulent au même moment. Vous pouvez tricher puis commencer à lire à droite la planche de François, si vous voulez. Ça se déroule au même moment. Et de là est né le concept de dire, OK, on va raconter une histoire, mais chaque double planche va représenter la réalité. Les deux parties du cerveau, si vous voulez, la partie plus artistique, la partie plus réelle. Et là, je me suis tenu à ce concept-là pendant toute l'écriture. J'ai essayé de développer l'histoire. Puis au départ, pendant deux doubles planches seulement, on a des planches parallèles, vraiment symétriques. Et on a, pour que le lecteur comprenne le concept de lecture. Et dès la troisième double planche, on se libère totalement de ça, puis on commence à devenir un peu des fois en opposition, des fois on est en complément un et l'autre, puis on joue énormément avec le concept puis le lecteur. Puis plus que l'album avance, plus que les deux mondes deviennent deux réalités très, très entières, qui vont chacun de leur côté, puis qui développent l'histoire complètement chacun de leur côté, là.
Oui, puis ça devient, en fait, tu parlais de raconter une bonne histoire, mais avec ça, je trouve que ça devient un peu un moteur de récit où la perception d'un côté teinte la compréhension qu'on a aussi de la réalité dans un contexte où, évidemment, nous, comme lecteurs, on a des informations que les autres personnages n'ont pas au moment où ils sont confrontés à la situation. Donc, ça vient accentuer l'aspect thriller, si on peut dire, oui. Et ça vient permettre de vivre vraiment de façon immersive, je trouve, le crescendo, parce que tout ça est en montée dramatique aussi vers quelque chose qui va finir par se passer. Mais dans un contexte où j'imagine qu'en termes de création, donc tu arrives avec un scénario bon, qui est quand même assez clair, assez défini, mais ensuite, si on veut qu'il y ait une logique dans l'album, ben on peut pas faire, mettons, Voreau peut pas faire toutes ses planches, puis après ça, François Lapierre va faire toutes ses planches. Nécessairement, j'imagine que ça se fait avec beaucoup d'allers-retours, voire même, en fait, chacun votre tour une planche.
Ouais, c'est ça qui a été fabuleux dans le projet, puis qui a été très amusant, mais qui a été aussi très long. Moi, je dessinais, une fois que le scénario a été complètement écrit, je l'apportais à François pendant un festival, puis je lui ai donné le synopsis, le scénario, ça faisait presque une centaine de pages, tout écrit, et là, j'ai dit, je veux pas découper rien, je veux te laisser la totale liberté pour dessiner ton côté, je veux pas t'imposer un nombre de cases. Moi, comment je veux qu'on travaille, je dessine ma page en noir et blanc, côté de la réalité. Je t'envoie ma page en noir et blanc et toi, tu fais ta réponse, tu dessines ta planche, tu mets la couleur. Ensuite, François me retournait sa planche en couleur pour que moi, je termine ma planche puis qu'on ait quand même un récit assez homogène là, parce que je voulais pas non plus que ça soit n'importe quoi les deux côtés, que ça corresponde pas ensemble. Ça fait qu'on s'est envoyé la balle comme ça. C'était vraiment une partie de tennis puis c'était tellement amusant parce que à chaque fois que j'envoyais ma page à François, j'attendais sa page. C'était comme un cadeau à chaque semaine.
C'est ça, moi, je rebondissais sur sa page en disant, OK, là, où je pourrais aller où avec ça? Et avec la même limite de pagination que j'ai, que Vincent aussi. Donc, pour une page réaliste, moi, une page, le défi, c'était de transmettre le côté imaginaire ou halluciné du personnage, mais avec le même nombre de pages, je ne peux pas prendre le temps de montrer une progression très, très lente. Et c'était le défi qui était très amusant à faire. Puis ça me permettait de rebondir aussi, mais effectivement, pour en revenir à la couleur, on avait abordé que l'idée que je fasse la coloration des deux planches, des deux côtés pour qu'il y ait un côté uniforme. Ben finalement, parce que Vincent, c'est un excellent coloriste. Donc, moi, en faisant mes. Parce que moi, je suis incapable de faire une planche sans la mettre en couleur. Même sur mes projets, je suis un impatient. Quand j'en dessine une, il faut que je la mette en couleur. Je ne suis pas capable d'en dessiner une deuxième. Si elle n'est pas en couleur, puis ça c'est OK, ça ressemble à ça, ça va être joli. Donc, ça permettait aussi, puis ça a été un peu organique comme processus. Parce qu'en faisant ça, ben voilà, Vincent, il dit OK, il a commencé ses couleurs, fait que c'est le fun. Fait qu'à un moment donné, tu t'es mis à faire ça, mais toi, tu faisais plus de planches, Vincent, noir et blanc en ligne, je crois, avant de te mettre à la couleur, hein, il me semble, t'sais. Oui, moi, ça permettait d'avoir une. Pas une Bible, mais un genre de. Ouais, une sorte de Bible.
Une référence.
Oui, une référence, une forme de référence qui faisait que tout devenait uniforme à la longue. Parce que l'album devient quand même uniforme quand on tient entre les mains, là, à mon avis. Là.
Oui, puis ça aurait été. En fait, je trouve que ça aurait été un bris de fonctionnement comme tel, parce que comme disait Vincent, on prend la double page. Évidemment, dans le fond, la structure de la BD fait qu'il y a une division qui est naturelle au milieu, forcée par le livre. Et les deux styles sont quand même légèrement différents. Dans le fond, c'est pas une différence qui est complètement tranchée, marquée. La différence, c'est quand même, il y a une certaine subtilité là-dedans, dans la mesure où François, il y a un côté, à défaut d'un verbe, peut-être plus fluide, plus caricatural un peu, plus arrondi, dans les gestes, plus arrondi. Donc, ça tranche un peu, mais je trouve qu'il y a des éléments de détail et il y a des éléments plus évidents aussi, des personnages qui ont des troisièmes yeux, des tentacules, des trucs comme ça. Donc, il y a un jeu à deux niveaux. Mais dans un contexte où la couleur aussi vient aplanir ça, parce que nécessairement, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne nous faire comprendre qu'on est dans le même univers, qu'on est quand même dans le même monde puis dans la même réalité. Donc, c'est un peu la couleur, dans le fond, qui est devenue ce vecteur-là, d'une certaine façon.
Alors que habituellement, c'est le contraire qui arrive. C'est quand c'est le même auteur ou le même illustrateur qui illustre, il va jouer sur la couleur pour montrer la différence de style. T'sais, parce que là, il y a le même dessinateur. Donc là, il va jouer sur la couleur pour faire un changement. Nous, c'est exactement le contraire qu'on a fait. Il y a deux dessins complètement opposés. Oui, pas mal opposés. Et c'est la couleur qui vient lier le tout. Fait qu'en fait, on a fait tout à l'envers.
C'est vrai.
Tout à l'envers, mais en exploitant les codes différemment, au bout du compte. Parce que sinon, effectivement, ça aurait peut-être été aussi une redite de quelque chose d'assez classique. Ce qui fait que la BD ressort aussi, c'est parce qu'on s'amuse à faire autre chose, exploiter différemment. Et dans le cas de la palette, ben dans le fond, nécessairement, ça veut dire aussi que tu te retrouves dans une situation, François, où il faut que tu colorises des situations qui pourraient amener à des couleurs et à des ambiances qui sont quand même assez éclatées, mais ça te force à les ramener quand même à quelque chose d'assez classique, réaliste. Parce que je veux dire, si tu mets du fluo là-dedans, ça ne marchera pas. Vincent ne pourra pas les récupérer pour les siennes. Ça va clasher avec le réel. Donc, il faut ça permet peut-être d'ancrer un peu le délire puis d'éviter peut-être aussi que ça soit trop éclatant, trop théâtral, si on peut dire, comme des livres aussi.
Moi, au début, mes craintes, c'était que mon côté à moi, de par mon dessin, par mon imaginaire, devienne trop caricature, comme si ça pouvait donner l'impression que je me moquais de tout ça, puis il n'y a rien de sérieux, puis il n'y a rien de... Donc, des fois, je suis pas certain, puis Vincent, lui, m'encourageait, non, c'est le fun, vas-y de même, c'est ton style, c'est... Puis moi, plus en fait, plus j'ai confiance, plus je me sens en fait meilleur je suis. T'sais. Donc là, OK, là, on va faire ça, on va pouvoir aller dans ce sens-là. Mais oui, au début, ma crainte de par les couleurs, pour ça, tu as raison, c'est un peu plus atténué, entre guillemets, pour que ça soit cohérent. Mais aussi pour éviter un effet peut-être trop caricatural sur un paquet de trucs. Déjà qu'il y en a quelques-uns, mais qui passent très bien, en fait, avec le recul des lecteurs et tout. Là. Mais c'était un peu ma crainte au début. Je ne voulais pas avoir donné l'impression de me moquer de quoi que ce soit. Là.
Oui, parce que ça prend des passages drôles dans une histoire comme ça. Sinon, ça devient très lourd. Là. Le sujet est lourd. C'est un album concept. Moi, je dis toujours aux lecteurs, parce que souvent, les lecteurs, quand ils ouvrent le livre et qu'ils comprennent un peu quel objet qu'ils ont entre les mains, ils se disent « Oh, ça doit être assez intense comme lecture. » Puis je leur dis toujours « Non, pas du tout. » C'est une histoire assez simple. C'est un bon thriller. Ça se lit comme un Spirou. C'est pas plus compliqué à lire qu'un Spirou. Puis je leur dis « c'est oui, le sujet est lourd, mais pour être capable de parler ouvertement d'un sujet, il faut être capable d'en rire, il faut être capable de dédramatiser tout ça, puis d'en parler de toutes les façons. » Puis le côté à François amenait beaucoup ça, des pauses, peut-être que si ça avait été raconté juste de mon côté en réaliste, les moments où qui se torture dans son lit, puis qui c'est seulement ça, il fait que réfléchir, puis déprimer, ça aurait été assez lourd comme passage. Les planches de François viennent dédramatiser tout ça, puis ça fait du bien, là, ça amène de la respiration dans le scénario.
Oui, puis viennent dédramatiser, puis viennent étayer peut-être aussi un peu, parce que veut pas, ça donne une orientation à notre imaginaire, puis à notre perception de ce que Jasmin est en train de vivre. Et d'un côté, dans le fond, ça, Et un suspense, comme on disait tantôt, mais de l'autre côté, ça crée de l'empathie aussi, j'ai l'impression, parce que c'est le cauchemar dans lequel il se trouve, tu le vois, je veux dire, tu le vois littéralement. Et par moments, ben, dans le fond, on parlait quand même d'imagerie qui est assez grandée dans le réel, mais tu te permets quand même aussi, je pense à des séquences, à Manon, on est dans son appartement, il est en train de déjeuner, la table avant-scène dessinée de façon assez classique au bout du compte, assez réaliste, mais ton background dans la couleur des quasiment vert fluo et des poissons et des trucs qui se passent, et là, parce qu'on comprend que cette action-là, elle est complètement déconnectée de ce qu'il est en train de vivre dans sa tête. Donc, encore là, on parle de détails, mais c'est des petits détails comme ça qui nous amènent à être débalancés puis à peut-être mieux percevoir un peu ce que Jasmin est en train de vivre.
Ben, c'est un peu ces petites tempêtes intérieures. À ce moment-là, je l'ai illustré comme là, ça se met à spinner puis à tourner de manière assez chaotique. Oui, fait qu'à ce moment-là, c'est plus ça que je voulais exprimer tout à fait.
Puis ça, c'est François qui a apporté tout ce côté-là. Parce que oui, j'ai écrit l'histoire, mais après ça, justement, illustrer la vision du personnage, surtout dans les moments où il ne parle pas trop, c'est François qui a amené toutes les lianes qui viennent faire un élément oppresseur, puis la folie qui s'installe tranquillement. Ça vient de lui avec son univers, justement.
Et j'ai l'impression qu'il y a un peu deux dans l'illustration de cette folie-là. Il y a les moments où les éléments, tu parles des lianes et le reste, sont dessinés de façon réaliste. Et à un moment donné, François t'intègre aussi, un peu comme avec le background dont j'ai parlé, mais avec d'autres éléments, à un moment donné, le personnage s'imagine avec un chapeau de détective ou sur la fin où il y a d'autres séquences. Là, tu dessines la case et tu redessines des éléments par-dessus au crayon pour donner peut-être encore plus de profondeur ou amplifier peut-être un peu les degrés de délire dans lesquels on se retrouve. Ça, c'est comment tu es venu un peu, j'imagine, c'est un peu d'expérimentation où justement tu te laisses aller, puis OK, les éléments, les pièces se placent un peu côté développement de ces cases-là?
Oui, ben, il y a eu beaucoup de work in progress au fil des planches. Et j'ai eu un déclic, un album qui m'a beaucoup influencé. À l'âge qu'on est rendu, on peut quand même toujours être influencé, mais et c'est le... Merde, je cherche le nom. C'est l'âge d'or de... Je ne sais pas si tu l'as vu, si tu l'as lu ou quoi que ce soit. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'audace dans son style graphique et narratif et beaucoup de lignes qui ont été colorées, des lignes blanches sur un fond très foncé, quoi que ce soit. Et j'ai adoré ça. Genre, peut-être que je pourrais intégrer des trucs de même dans son délire pour faire... Surtout dans certaines cases, comme vers la fin, en effet, où il y a le côté... Ben, de la réalité, même si c'est moi qui le dessine, et son imaginaire comme le chapeau de Sherlock Holmes, comme tu disais, ou à la fin, quand il vient, il pénètre dans la maison de l'autre côté, puis il y a des éléments que personne ne voit sauf lui, de changer la coloration de la ligne et le style graphique, ça permettait de, dans la même case, de montrer des trucs qui se passent pour vrai et son imaginaire, lui, de ce qu'il voit tout alentour de ça. Mais c'était vraiment comme une forme de progression. J'essaie un truc à une place. Ah ouais, c'est intéressant, je pourrais le refaire dans l'autre, mais ben, un peu mieux, en tout cas, plus poussé, plus. C'était vraiment un laboratoire pour moi, vraiment, vraiment le fun de me permettre d'aller dans des directions. Tout le temps aussi validé et poussé par Vincent, disant non, c'est super bon, vas-y. Au lieu, tu sais, des fois qu'on est seul, on a nos doutes, on a OK, ouais, c'est-tu assez? Alors que moi, je suis tout le temps meilleur quand je doute pas. Mes premiers albums, je ne doutais pas une seconde, c'était loin d'être parfait, mais au moins, il y avait une effervescence que, en fait, j'essaie de retrouver dans tout ce que je fais présentement, avec une maîtrise plus assumée qu'il y a 20 ans. Fait que je suis en train d'atteindre le meilleur des deux mondes pour moi. Là.
Et dans un contexte où, j'imagine, Vincent, ça te donne un défi particulier parce que. De la façon qu'on en parle là, on peut avoir l'impression que François avait comme toutes les cases, entre guillemets, cool à dessiner. Là, je veux dire, c'était les trucs, s'expérimenter, s'éclater. Tu te retrouves avec la réalité.
C'était donc, pas mal comment... ça.
Un beau cadeau, un beau cadeau.
Je lui ai donné toutes les plus belles planches à faire, effectivement.
Et il m'a aussi donné les deux plus faciles à dessiner. Oui.
Moi, depuis que je suis tout petit, là, quand je voyais des cases noires, des planches noires, que ce soit dans Franquin ou Les Petits Hommes, ou même, je pense, dans Spirou, il y en avait, je trouvais ça fabuleux. Je me disais, c'est génial. Quand c'est bien placé, là, ça fait un effet assez intense de se retrouver devant des cases, pas de dessin, complètement noir. Puis, il y a un passage dans l'album, justement, qui a deux planches comme ça. Puis, c'est François qui les a pas fait, qui a été payé pour pas les faire. Mais j'en entends tellement souvent parler par les lecteurs. Ils me disent, c'est puissant, ce passage-là. C'est vraiment, ça représente tellement bien que le personnage a arrêté de prendre... Il a recommencé à prendre son traitement, puis son imaginaire est bloqué, puis il retombe dans la réalité, fait qu'il ne se passe plus rien de l'autre côté. Là, on, c'est, Je me suis amusé beaucoup quand même quand j'ai écrit l'album. Il y a beaucoup de concepts graphiques que j'ai utilisés. Il y a certaines planches que le découpage des cases est complètement symétrique, mais à l'opposé, là, comme si c'était imprimé sur l'autre page.
Effet miroir.
Oui, en effet miroir symétrique. Pour montrer que ça se déroule vraiment au même moment dans l'histoire. J'ai joué avec beaucoup de concepts comme ça, fait que je me suis amusé en l'écrivant énormément. Mais effectivement, François a toutes les plus beaux moments à dessiner, les moments de folie. Le personnage secondaire qui est un peu la conscience de Jasmin, Mick, il est génial là, comme personnage en dédicace, c'est lui que tout le monde veut avoir. C'est François. Moi, je dessinais un réveil matin, toujours le même réveil matin en plastique. Puis, ça ne bougeait pas. Hein. François, lui, il avait tous les beaux moments où Mick saute en l'air, il crie après Jasmin. Puis,
j'imagine que ça devient un contexte où justement tu dis que j'ai beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup cherché parce que je veux dire, à un moment donné, tu ne veux pas que tes cases soient écrasées par les siennes non plus. Donc, il faut que tu trouves quelque chose, il faut que tu te challenges aussi, puis il faut que tu exploites, mais dans un contexte d'un barème qui est peut-être plus, je dirais pas plus limité, mais plus cadré.
Ouais.
Mais donc, j'imagine que ça t'a poussé aussi beaucoup vers cette expérimentation-là nécessairement.
Oui, puis comme lecteur, je voulais que ça soit agréable aussi. Je voulais pas que le concept de la double planche parallèle soit du début à la fin. Je voulais que ce concept-là évolue pour que la lecture soit beaucoup plus dynamique puis agréable. C'est pour ça que justement, ça évolue énormément comme concept à travers l'album. Ça ne reste pas parallèle très longtemps, puis ça devient complémentaire, puis secondaire même vers la fin. Mais tout ça était voulu, puis réfléchi. J'ai réécrit 3 fois le scénario. Comme on a dit, on a travaillé pendant plus que 7 ans là-dessus, là, pas à temps plein, bien évidemment. Mais ça donnait le temps de mettre le projet de côté, d'y réfléchir. Puis moi, dès le départ, je le voyais comme un jeu graphique très, très amusant. Puis je me disais, moi, comme lecteur, j'adorerais ça, lire une bande dessinée comme ça. Il n'y en a pas. Puis là, je disais aux éditeurs, c'est ça le concept. Puis ils me disaient, oh, ça ne va pas être facile à lire. Ça va être rébarbatif. Puis je leur disais, ben non, ça va être génial. Ça ne sera pas rébarbatif. Ça va être amusant. Mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas du tout. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je dise, OK, je vois qu'il n'y a aucune ouverture de la part de nos éditeurs européens avec qui on travaillait à l'époque. Ça fait que j'ai dit, il faut faire tout le projet. Il faut faire tout le projet, ce que je n'avais jamais fait. À l'époque, on présente 3-4 pages. Si le contrat est signé, on travaille sur l'album. Mais là, j'ai dit, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, il faut faire l'album en entier. Puis après, on leur donne, puis ils liront. Puis ils vont bien comprendre que c'est simple à lire, puis que c'est dynamique, puis que c'est efficace.
Et Vincent, tu parlais un peu de défi d'édition, justement, parce qu'il y a 7-10 ans, donc quand tu es arrivé avec le projet... ça ne passait pas d'un côté thématique, du côté complexité. J'imagine qu'il y a eu la pandémie qui est venue, entre guillemets, aider d'une certaine façon parce que subitement, les questions de santé mentale ont repris peut-être un peu d'avant-scène. Subitement, on acceptait d'en parler. Subitement, il y avait des tabous par rapport à ce type de sujet-là qui était tombé. Donc, j'imagine que c'est un peu ce qui a ouvert des portes pour que l'agent double finisse par exister.
Ah, tout à fait. Puis, à l'époque, vous l'avez dit, quand j'ai écrit le scénario pour la première fois, je me faisais dire carrément, non, on ne peut pas parler de maladie mentale ou de folie. Ou de, c'est la santé mentale, le terme, monsieur, mais il faut en parler. Puis non, il disait, c'est pas quelque chose qui peut vendre. On ne va pas être capable de vendre des livres avec ça. Puis ce n'est pas un sujet qu'on traite en bande dessinée. C'était un non catégorique, là, voilà 10 ans. Puis on a mis de côté le projet pendant 3 ans ou presque parce qu'on se disait que ça va être impossible de signer ça avec nos éditeurs avec lesquels on travaillait à l'époque. Puis après ça, justement, moi, j'ai dit, bon, c'est une histoire qui me tenait énormément. Ça fait que j'ai dit, je veux la faire absolument, cette histoire-là. Je veux qu'elle vive. Puis je suis allé chercher les fonds. Autant dans le privé que le gouvernement pour réussir à aller chercher à peu près un prix à la planche qu'on avait à l'époque. Puis quand j'ai eu les sous, j'ai rappelé François, puis j'ai dit, OK, là, Moi, j'ai l'argent pour te payer, on peut le faire, l'album. Entre-temps, la pandémie est arrivée et même l'année avant la pandémie, quand le film Le Joker est sorti, ça a été le plus grand succès de l'année au cinéma. Puis moi, j'écoutais ça, puis je me mordais les doigts sur mon banc au cinéma. Je me disais, c'est ça que je voulais faire, voilà 10 ans en bande dessinée, puis tout le monde me dit non. C'était un peu frustrant hein, de voir une œuvre géniale comme ça arriver, puis que tout le monde acclame ça, puis de dire, ben ça va m'aider, ça va ouvrir l'esprit un peu aux éditeurs européens. Mais c'était frustrant, très frustrant, parce que moi, j'aurais tellement aimé sortir ce livre-là, voilà 7 ans, justement. Parce que ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Puis là, le timing est magnifique. Oui, tout le monde en parle. On est dans un moment où les esprits sont ouverts. Mais le but de ça, c'était d'ouvrir la porte, justement, d'ouvrir les esprits, pas d'arriver dans un timing publicitaire. Mais en tout cas, on est chanceux parce que l'album a une superbe réception des médias et des lecteurs. Puis on rencontre des gens en dédicace qui viennent nous partager des moments de vie incroyables, là, des gens qui vivent avec ces problèmes-là. Puis on rencontre des intervenants, des psychiatres, toutes sortes de gens qui viennent nous remercier. C'est assez hallucinant l'accueil qu'on a pour ce livre-là. J'en suis très content. Mais j'aurais aimé ça pouvoir le faire quelques années.
Et tu parles de l'accueil, ça me fait rire parce que tu parlais au départ, en fait, qu'il y avait au côté documentation, t'en as évidemment peut-être un peu moins que le contexte historique, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'accompagnement, il y a eu de la recherche pour trouver les bons mots, la bonne manière de dire les choses. Évidemment, ça reste un album de fiction, ça reste une représentation de ça, et je pense qu'on comprend en lisant l'album que les éléments sont là, évidemment, pour le récit, pour la force du récit, mais le récit ne fonctionnerait pas, serait peut-être moins fort si les assises ne seraient pas réalistes. Donc, on comprend qu'il y a quand même une réelle recherche, quand même assez intense, pour trouver les bonnes façons de dire les choses. Et j'imagine qu'après ça, quand on voit après la sortie, en faisant la recherche, tombant entre autres sur, je pense, un médecin suisse qui, pendant 10 minutes, vous dit à quel point, ben oui, c'est une bonne représentation, les commentaires que vous avez dans le salon, mais ben, finalement, vous vous rendez compte que les assises, justement, vous avez réussi à les trouver. Et vous avez réussi à les intégrer pour qu'elles soient au service d'un récit fort, plutôt qu'elles viennent apporter un aspect qui est trop didactique dans ta face, si on peut dire, qui aurait peut-être ça, desservi le récit.
Oui, ça, c'était voulu. Dès le départ, quand j'ai approché Santé mentale Québec, je leur ai dit, écoutez, l'histoire, on veut faire une belle histoire. On ne veut pas faire un objet didactique qui explique l'évolution de la schizophrénie chez un jeune adulte. C'était voulu, puis je leur ai dit. Puis au départ, quand il me parrainait pour l'écriture, je voulais qu'il écrive un mot au début de l'album. Quand on leur a présenté l'album fini avec les planches en couleur, tout, là, ils se sont rétractés parce qu'ils ont dit que c'est bien trop intense. C'est très représentatif de la réalité. On ne pensait pas que ça pouvait être aussi choquant et intense que ça. On a un peu peur de mettre notre étampe là-dessus et de le présenter à nos clients parce qu'on a peur de leur retour là-dessus. Moi, à ce moment-là, je trouvais ça très triste là, d'avoir travaillé avec eux et qu'ils n'en profitent pas à la fin, justement, pour l'utiliser comme outil. Mais peut-être que ça va venir dans les mois ou les années qui suivent, qui sait, mais... Ça a été un beau compliment quand même, parce que j'ai dit, ils me disent que c'est trop représentatif de la réalité, puis que c'est vraiment ce que pourrait être une descente aux abîmes quand que, justement, quelqu'un qui vit avec la schizophrénie arrête de prendre ses médicaments, puis qui tombe dans une phase paranoïde. Ça fait que ça, j'ai dit, bon, mais ça met, pour moi, ça met l'étampe sur le scénario que c'est valable, puis ça se peut. Puis on a eu la confirmation souvent après ça, en dédicace.
Oui, parce que j'imagine qu'en cours de processus de création, on doute un peu là-dessus. Et peut-être je regarde un peu François aussi, parce que c'est toi qui te retrouvais, on dit avec les planches les plus plaisantes peut-être à présenter, mais les plus à risque aussi, parce que tu présentes une pathologie et toi, tu présentes dans le fond la vision, l'incarnation dans le fond de cette pathologie-là. Donc, le dérapage aurait pu être de ton côté potentiellement si tu avais été trop d'un côté, trop de l'autre ou...
C'était ça un peu mes craintes. Comme je disais tout à l'heure, en effet, c'est de comment représenter ça, alors que moi, dans mes proches, bon, il y a eu des soucis de santé mentale, mais plus de dépression, des choses comme ça, mais des trucs plus pointus, plus graves, entre guillemets, j'en ai pas, j'en connais pas. Donc, ou je le sais pas, en tout cas, si c'est le cas. Bref, fallait Puis j'ai pas fait les recherches que Vincent a fait. Ça, je lui lève mon chapeau sur tout ce qu'il a fait. C'est vraiment le projet de Vincent. Pas pour moi m'en dédouaner. Je suis bien content de faire partie de ça, mais il faut rendre à Vincent ce qui appartient à Vincent. Mais donc, moi, de mon côté, oui, c'est de pas encore une fois, de ne pas tomber dans la caricature. Je dis non, mais c'est complètement ridicule. Personne voit ça dans sa tête. Personne fait ci ou comme ça. C'est ça. Donc, il a fallu que je me fasse confiance, que Vincent me fasse confiance pour aller dans un truc qui est en effet cartoon. Et on m'a fait remarquer récemment, dans une autre entrevue, que plus mes planches avancent, plus mon dessin devient cartoon, en fait. Plus devient stylisé cartoon, peut-être parce que là, j'ai attrapé une aisance dans le dessin, dans les personnages aussi. Mais comme si ça dérapait de plus en plus, puis même à la fin, indiqué sur son épaule, là, Jasmin, il a la tête immense. Et on dirait là, c'est vraiment un délire qui est de plus en plus gros. Mais c'est pour accentuer le fait d'hallucination et aussi, par contre, pour jouer sur le volet bande dessinée. Comme Vincent disait, c'est une bande dessinée qu'on a fait qui se lit comme un Spirou. C'est une amorce à nous prendre de santé mentale sans que ce soit un véhicule didactique de recherche universitaire. Il n'y a pas de mauvais... mauvais angle pour aborder un sujet. Il y en a des plus légers. Il y en a des plus lourds. Puis là, moi, j'arrive souvent à ce que je faisais sur Saginaw, des trucs plus historiques. C'est que pour donner le goût aux gens de s'intéresser à un sujet, il ne faut pas commencer par le plus lourd et le plus ardu à la base. Ça prend un truc. Ah oui, OK, ça, c'est intéressant. Peut-être que je pourrais creuser plus. Quand je faisais Saginaw, c'était pareil. OK, j'ai le goût d'en apprendre sur la Nouvelle-France ou sur telle affaire. Et sur ce projet-là aussi, OK, la schizophrénie. Si on donne une brique de 500 pages à quelqu'un, dit lis là-dessus, tu vois, c'est super intéressant. On perd 90% des lecteurs potentiels. Mais un truc comme ça, c'est une amorce pour approfondir un sujet aussi, à mon humble avis.
Oui, puis chez les jeunes adultes là, qui commencent à développer des problèmes de santé mentale, ça commence toujours à peu près vers l'âge de 17 ans. Puis souvent, il n'y a pas vraiment de documentation intéressante pour eux. C'est des documentaires ou des dépliants très, très didactiques. C'est lourd, puis c'est un peu triste à lire pour un jeune adulte. Puis souvent, c'est la pire crise, c'est la première, parce que tu n'as pas accepté que tu as un problème de santé mentale, tu ne le connais pas, tu connais absolument rien. C'est épeurant, que ça soit une dépression ou une schizophrénie, là, c'est épeurant. Puis arriver comme aidant naturel à côté, puis essayer d'en parler à cette personne-là, c'est pas évident, parce qu'il faut qu'elle commence par accepter qu'il y a un problème dans sa vie, là. Ça fait que la bande dessinée, c'est un outil incroyable pour parler de tout. Apprendre des langues, c'est un super bel outil pour approcher n'importe quel thème. Ça fait que c'est juste ça, l'agent double. C'est une porte ouverte pour, justement, tu donnes la bande dessinée à ton ami ou à ton jeune, puis tu dis « lis ça, demain on se reparle ». Puis là, le lendemain, tu peux arriver avec un petit dépliant, quelque chose d'un peu plus complexe. Mais si tu arrives avec le dépliant, je ne connais pas beaucoup de jeunes de 17, 18, 19 ans qui vont accueillir ça favorablement. Ça fait que c'est un outil très fort pour ouvrir une porte puis en parler. Puis moi, j'ai vécu ça avec ma sœur à l'époque. Ma sœur était maniaco-dépressive. Puis c'est pour ça que j'ai dû revenir de Belgique. C'est parce qu'elle s'est suicidée. Puis j'ai dû revenir ici au Québec en catastrophe. Puis il y avait aucun outil pour l'aider ou à peu près. Mes parents travaillaient avec plein d'associations puis de gens qui aident les gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais une fois que tu as 40 ans, 50 ans, c'est beaucoup plus facile d'avoir un soutien puis de travailler avec ces gens-là parce que oui, l'ouverture est là puis ils ont compris leurs problèmes, mais les jeunes adultes, c'est complexe, là. C'est très, très difficile de les approcher puis de les aider. Il faut qu'ils acceptent. Puis si on peut ouvrir des portes pour que ces gens-là puissent en parler un peu plus vite dans leur vie, ben tant mieux, ça va être ça qui va être gagné, là.
En fait, les éléments puis la réalité de ces pathologies-là viennent nourrir un peu, j'ai l'impression, le scénario. Et si on s'y met juste aux premières cases, justement, qui établissent un peu l'ambiance du récit, Bien, on comprend aussi, je veux dire, on est en situation de crise pour Jasmin. La crise, elle est déjà commencée, il a déjà arrêté de prendre ses médications. Et on se retrouve dans une dynamique où il sort de chez lui, mais on comprend quelques cases plus tard, quand Sarah arrive chez eux, que ça fait plusieurs jours qu'il est enfermé chez lui, parce qu'en situation de crise comme ça, bien, la personne qui est atteinte de schizophrénie, de paranoïa, se retrouve observé, a l'impression d'être sous pression, donc il n'ira pas dans la société courir, elle va rester enfermée chez eux et elle va sortir uniquement par nécessité. Et donc là, déjà, à l'amorce, en trois pages, ben, on réussit à camper un peu cette réalité-là en partant de la réalité clinique, dans le fond, de la manière dont ça se passe.
Ça ne se limite pas à la schizophrénie. Hein? Mm-hmm. Tous ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale, que ce soit juste une légère dépression, on va dire, là, pour être beaucoup plus simple, tu t'isoles parce que tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus le goût de voir de monde, puis tu n'as pas le goût non plus de mal paraître en public. Ça fait que le premier réflexe de tous les problèmes de santé mentale, c'est de s'isoler. Puis s'il n'y a personne qui vient cogner à ta porte, c'est là que ça vire mal. C'est là qu'ils vont arrêter la médication puis qu'ils vont partir dans des délires ou qu'ils vont passer à l'acte souvent parce qu'il n'y aura personne qui va être venu voir comment ça se passe. Ça ne prend pas grand-chose pour les ramener du bon côté. Là. Ça prend un petit coup de téléphone, une petite visite, mais si personne ne se rend compte que tu vas mal puis que tu pars en délire pendant 3 semaines, ça va aller loin, là, ton délire. Là.
Et c'est justement là aussi où j'imagine que les éléments de décor, entre autres, viennent étayer. Dans le fond, on a l'état mental de Jasmin d'un côté, mais l'état physique, donc de voir son appartement, la séquence où tu nous montres aussi, Vincent, en pleine page, il est sur son lit, ben, on voit autour un peu ce qu'il y a. Donc, de toujours nous ramener à l'ambiance générale des lieux, à la nature des interactions qu'il a, de comment il paraît aux autres, ben, ça nous permet aussi d'étayer un peu l'autre partie. Parce que juste avoir sa vision intérieure, il nous aurait manqué des éléments pour comprendre, puis pour orienter notre empathie aussi envers Jasmin.
Cette planche-là, d'ailleurs, quand on parlait tantôt de côté du découpage, puis comment j'ai structuré le scénario, c'est une case pleine, il y a une illustration, mais il y a plein de textes en haut de lui. C'est lourd, c'est le genre de page qui est un peu lourde à lire, puis que tu ne veux pas faire à plusieurs reprises dans une bande dessinée. Mais placé là, à cet endroit-là, il est dans son lit recroquevillé, il va mal, puis le texte, il y a plein de textes en haut de lui qui l'écrasent. Puis du côté à François, on ne pouvait pas avoir cette lourdeur-là. Là. Ça fait que ça, c'est après ça, tu as la page de François à droite qui est beaucoup plus classique, on va dire, avec plein de cases puis bien découpée. Ça fait que ça, le contraste entre les deux, justement, c'est intense visuellement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au cinéma, ça. Fait que c'est y a que la bande dessinée qui peut apporter cette efficacité-là narrative.
Oui, puis même en termes de rythme aussi, toutes les plongeons que tu fais dans juste le village, dans le fond, où on se trouve, dans le fond, qu'on est à un endroit ordinaire, de nous ramener à la normalité de la chose, de nous ramener aussi chez des voisins qui sont apeurés. Donc, et en même temps, là-dessus, c'est que tes pages aussi nous permettent de sortir un peu de la réalité de Jasmin, puis c'est les seuls avec lesquels on peut aller chercher aussi la vision d'autres personnages et des moments où on n'est pas avec Jasmin, où on voit la réalité sous d'autres yeux. Parce que j'imagine, sinon, ça devient extrêmement contraignant, même pour développer l'univers autour. Donc oui, on a un narrateur qui n'est pas fiable, ça devient intéressant à exploiter, mais en même temps, ça limite aussi pour développer tous les personnages secondaires qui sont là-dedans, et principalement, dans le fond, le psychiatre, le frère, la belle-sœur, qui sont instrumentales dans le récit. Mais vous n'avez pas tant d'outils, puis un narrateur qui n'est pas très objectif pour les développer non plus.
Oui, puis les personnages secondaires, j'ai un lecteur la semaine passée qui me dit... Les personnages, ils ont tous des problèmes. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, Sarah, il me semble qu'elle n'est pas si pire. Puis là, Sarah, c'est la dante naturelle. C'est celle qui doit passer voir Jasmin avec son conjoint, son frère. Puis il me dit, ben non, indépendante affective, Sarah. Son frère, on comprend qu'il est violent puis qu'il est jaloux, mais tous les personnages ont un problème dans cette histoire-là, effectivement.
et comment ça s'est développé, justement, parce que encore là, il faut connaître Éric. Ben je pense qu'Éric est un bon exemple où sa violence va avoir à servir au fil du récit, mais il faut que tu amènes cette perception-là par le biais de Jasmin, parce que ce n'est pas quelque chose que les autres personnages vont nommément parler, d'autant Sarah qui est victime un peu de ça. Donc, j'imagine que c'est des éléments aussi qu'il faut commencer à placer, puis il faut réfléchir aussi dans l'organisation du récit pour que Jasmin puisse te permettre quand même de construire l'univers qui est autour de lui.
Oui, puis je ne voulais surtout pas avoir une représentation que les schizophrènes pouvaient être dangereux. Je voulais que ça reste très, très, très réaliste, là. La plupart des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils vont pas être dangereux du tout pour les. Ils vont être plus dangereux pour eux que pour les autres autour d'eux, là. Et le côté, justement, violent, je voulais pas que ça vienne de Jasmin, ça vient de son frère. Puis son frère, on peut le comprendre un peu parce qu'ils ont perdu leur mère très jeune, c'est dit en début de récit. Puis on comprend qu'il est pris pour s'occuper de Jasmin depuis qu'il est jeune. Ça devient sûrement très lourd avec les années à gérer tout ça. Puis on peut comprendre qu'il commence à en avoir marre puis que c'est très lourd à gérer à travers son couple. Sa blonde se retrouve aussi prise à s'occuper de Jasmin. Puis Jasmin, dès le début, il exprime, là, il dit « Je sais que ça doit être lourd, puis vous êtes obligé de vous occuper de moi tout le temps. » Ça serait très agréable un jour de raconter un peu la genèse, la vie de ces enfants-là avant l'histoire. Mais en tout cas, tout ça est possible. Mais c'est expliqué dans l'histoire, puis tout ça a été calculé pour que justement on comprenne à ce moment-là, si Jasmin pète une crise, c'est sûr que ça va mal aller. Son frère, il en a par-dessus la tête de Jasmin. Leur couple est sur le bord d'exploser. On comprend que Sarah ne tolérera pas très longtemps non plus la violence d'Éric, si cette violence-là est vraie, parce qu'on ne le sait pas trop encore si c'est vrai tout ça.
Et donc, ça veut dire que François, de ton côté, il faut que tu prennes aussi ces opinions-là, puis dans la manière dont tu représentes les personnages puis l'univers à travers les yeux de Jasmin, mais il faut que tu prennes en compte aussi, j'imagine, ça dans la mise en place. Puis c'est bien expliqué avec le propriétaire de l'épicerie dans le premier chapitre, qui a une relation qui est perçue très négative par Jasmin, qui n'est pas du tout le cas dans la réalité, mais nécessairement, dans le fond, la représentation que tu fais des personnages est teintée par l'opinion que Jasmin a d'eux, nécessairement.
Mmh. Oui, bien, je suis d'accord avec toi, mais pour les premières planches, par contre, le gars du dépanneur, je le trouve très condescendant quand il parle à Jasmin. Donc, moi, je trouve que la vision que Jasmin a de lui, elle n'est pas si fausse que ça. Elle est accentuée parce qu'il se sent dévalorisé par cette personne-là. Il y a un côté un peu pernicieux quand le gars du dépanneur parle qui fait que, tu sais, Jasmin doit se sentir comme ça pareil aussi parce que c'est pas complètement tordu. Je pense qu'en fait, il n'y a rien que Jasmin voit qui est complètement faux. C'est juste une exagération de la réalité, puis comme si chaque défaut caractéristique des personnages était accentué, je crois.
Chaque point était reçu plus violemment, d'une certaine façon, la condescendance, l'infantilisation, etc.
Non, c'est ça, je crois que c'est plus ça qui arrive, que tout est accentué. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaie de le dessiner. Bon, c'est sûr, c'est un peu exagéré avec le propriétaire du dépanneur, mais et on voulait aussi marquer un coup en partant, de montrer que c'est vraiment deux univers, le mien, celui de Vourou, et aussi dans sa tête, et lui, c'est assez... on avait quand même 46 pages pour faire tout ça aussi, là, donc commence les chapeaux de roue, puis ça finit encore plus rapidement, parce qu'en fait, tout est beau, plus ça va vers la fin. Tantôt, je parlais de mon style plus cartoon, on dirait même le rythme des dernières 10 planches ou 12, ou peu importe, c'est de plus en plus accéléré, comme si là, c'est un... C'est comme le petit chariot de Calvin et Hobbes qui est en train de dévaler la porte. Puis à la fin, tu sais que ça risque de se casser la gueule. Tu sais. Mais ça va de plus en plus vite.
De plus en plus vite, intense. Oui, c'est une belle image. Puis c'est vraiment effectivement le crescendo, puis où la temporalité se resserre aussi. Dans le fond, on est sur des journées au début, puis à la fin des heures, des minutes, les 12 dernières planches dont tu parles, c'est peut-être 30 minutes à peu près, là, au bout du compte, qui se passe en termes de récit. Et on sent, puis c'est peut-être un peu ce qui force aussi le lecteur à un certain point quand la temporalité se relâche, puis une fois que le concept est acquis sur les deux styles, les deux représentations, ben il y a un jeu temporel qui évolue. Et donc, ce qui fait qu'on comprend aussi qu'il y a des éléments qui se passent pour vrai d'un côté et de l'autre. Tout n'est pas que perception non plus, et où le lecteur doit être actif dans sa lecture aussi. Donc, pour moi, ça force engagement. Je veux dire, tu ne peux pas la lire passivement, cette BD-là. Nécessairement, comme lecteur, il faut que tu aies une opinion sur ce qui se passe. Et si tu as une opinion, il faut que tu sois engagé dans ta lecture. Donc, il n'y a pas de capacité à prendre un recul. Et ça augmente, pour moi, l'effet du crescendo à la fin, parce que, je veux dire, on est pogné dedans, nous autres aussi.
Oui, bien ça, dès le départ, moi, je voulais forcer le lecteur à prendre position. Que ce soit du côté de la réalité ou à Jasmin, je voulais le forcer, justement, à prendre position dans l'histoire. pour l'impliquer, justement. Puis c'était ça tout le jeu de narratif, puis le concept, c'était toujours autour du lecteur un peu, hein. Et c'est ça que moi, justement, je me disais à l'époque quand je le présentais aux éditeurs, ça va être génial comme jeu. C'est comme si le lecteur se retrouve à participer un peu à l'histoire. Puis je trouvais ça aberrant d'être le seul à avoir le concept dans ma tête comme il faut. Puis je suis très content, hein, parce que quand l'album est sorti, on avait peur. Est-ce que le 30% des lecteurs ne vont pas comprendre comme les éditeurs nous disaient à l'époque? Mais non, tout le monde a compris, puis tout le monde nous dit que ça a été très agréable comme lecture. Puis on a eu toutes sortes de commentaires, mais tout le temps hyper positif. Là. On attend toujours le pot, là, parce qu'on y croit à peu près pas, là, mais c'est assez aberrant que les éditeurs n'aient pas eu l'ouverture à l'époque de dire oh, on va prendre une chance, on en fait 7000 albums par année qui sont linéaires puis simples à lire, on peut-tu en faire 1% une fois de temps en temps?
Ben, c'est là aussi, je pense, faut souligner l'enthousiasme des éditions Paquet. Parce que pour tous les autres éditeurs, ouais, on ne saurait pas trop caser ça, peut-être qu'on pille. Alors que Paquet, eux, c'était non, wow, c'est génial, nous, on va le pousser, on aime ça. Donc, on était heureux de faire affaire avec une maison d'édition qui était des plus enthousiastes à travailler avec nous et à pousser ce projet-là au maximum. Puis, des fois, ça arrive que tu travailles pour un éditeur, puis l'album sort, mais un, comme disait Vincent, un parmi d'autres. Bon, eux, c'est un parmi d'autres aussi, mais ils ont poussé la machine promotionnelle en étant en Europe faire une tournée de dédicaces de presque 3 semaines sans arrêt. L'éditeur a vraiment poussé le truc au max. Moi, je n'avais jamais vécu ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que là-dessus, là, on parle des éditeurs depuis tantôt avec raison qui étaient très frileux, mais on en a trouvé un qui était le bon véhicule pour nous, en fait.
Oui, et au moment où je leur ai envoyé le dossier un dimanche matin. Je suis parti en début d'après-midi avec mon chien aller me promener au parc. Puis j'ai eu un retour, un appel. J'étais au parc avec mon chien. Puis là, M. Paquet était emballé. Puis il disait, c'est génial comme concept. Moi, je suis prêt à vous signer tout de suite. Puis là, j'étais bien content, mais j'ai dit, je vais prendre le temps de revenir à la maison puis d'éplucher un peu votre catalogue puis tout ça. Puis après ça, ça s'est passé en 2 jours à peu près. Là, le lundi matin, on avait une réunion téléphonique, puis on a négocié le contrat puis les clauses. Puis après ça, on est parti ensemble parce qu'il y avait 2-3 éditeurs qui nous disaient, c'est beau. Moi, peut-être que je pourrais le prendre, mais je ne sais pas trop dans quelle collection mettre ça. C'est un ovni. Ça, on se l'est fait dire souvent. François, je pense que toute sa carrière, il s'est fait dire ça. C'est vraiment drôle. La première fois qu'on se l'est fait dire, François, il dit encore, il dit, je me fais toujours dire ça. Les albums, c'est des ovnis.
Oui, puis c'est un ovni, en fait, dans l'exécution, dans le rendu, mais dans la réalisation aussi, j'ai l'impression, parce que, tu sais, j'essaie de me dire, en termes d'horaire de création, habituellement, tu sais, OK, je dessine un album pendant quoi, un an et demi, je me concentre là-dessus, je travaille, mais là, tu dessines une planche, tu l'envoies, t'attends, tu reçois une planche. Donc là, subitement, je veux dire, ça devient aussi un album qui est développé de façon quand même atypique d'un point de vue ne serait-ce que calendrier. Puis ne serait-ce, j'imagine que dans un contexte comme ça, ben le scénario, sans nécessairement dire qu'il se transforme, mais il y a une certaine, entre guillemets, agilité parce que, veux pas, ben, le retour amène des idées amènent d'autres idées. Je veux dire, à un moment donné...
Ben moi, dans mon côté aussi, il y avait beaucoup de flexibilité pour le scénario. Moi, je pouvais changer les choses que je voulais changer de mon côté. T'sais. Bon, on en parlait avec Vincent à ce moment-là. Mais c'est vrai que moi, vu que j'étais en train de développer un imaginaire pour Jasmin, il y avait un côté très organique pour les planches qui suivaient. T'sais, OK, là, j'ai mis des lianes, là, je pourrais y mettre plus là. Ah oui, là, telle planche, quand il est chez le psy, justement, puis les lianes descendent. Là, je ne me souviens pas si cette fois-là, c'est moi qui avais pensé à ça ou si c'est Vincent. T'sais.
C'est toi, les lianes, c'était vraiment...
Même ça qui descendait. Mais tu sais, bref, là, c'est parce que j'en ai fait avant. Puis OK, là, il se sent plus lié. Fait qu'il y avait un côté quand même assez organique dans le scénario qui permettait de... Moi, j'aime bien improviser quand je fais des trucs. Pas improviser, partir n'importe où, mais de dire, en gros, je m'en vais là, mais je me donne la marge de manœuvre pour continuer d'être motivé aussi. Parce que sinon, moi, je trouve que ça devient juste l'exécution. Et moi, d'exécuter une bande dessinée au complet, si tout est vraiment trop préformaté, ben, à un moment donné, je me lasse un peu. Là. Donc, quand chaque planche, je le sais, permettant, Les deux, on improvisait parce qu'on rebondissait sur ce que l'autre faisait. Fait que ça, c'était le fun. Qu'on fait, on a fait un album sans jamais trop savoir. On savait exactement ce que ça allait, mais visuellement, pas du tout, je pense, ou à peu près pas. OK, ouais, non, là, c'est bon, on préfère ci ou ça. La seule affaire qui est importante là-dedans, c'est que c'est Vincent qui commence les planches. Ça, c'était primordial. Puis, en fait, on a pu faire le contraire. Voilà, regarde, là, je viens de te lancer, Vincent, une planche complètement délirante. Trouve-moi du réaliste avec ça. Prochaine étape.
Peut-être pour la suite, si un jour il y a suite, parce que il disait que ça serait intéressant de raconter la genèse de ces personnages-là, mais Jasmin, après tout ça, c'est sûr qu'il serait interné, hein, puis là, c'est sûr que le gros côté de l'histoire, ça se passerait beaucoup plus dans sa tête, à travers son internement. Puis là, peut-être que ça serait très intéressant, justement, de mettre toutes les planches de François en premier.
Oui, c'est vrai.
Alors, des idées en attendant les traductions, les livres audio et autres éléments qui peut-être en émergeront. Et d'ici là, ben, dans le fond, si vous n'aviez pas mis sur pause l'entrevue au début pour aller acheter l'album, ben, on vous incite évidemment à y jeter un œil. Vous l'aurez bien compris, qui c'est à l'émission, on en est très, très enthousiaste. Ça s'appelle L'Agent Double, c'est de Voro et François Lapierre, c'est chez Paquet. Voro, François Lapierre, merci à vous deux.
Merci à toi, Raymond.
Merci.
Et ben nous, c'est ainsi qu'on termine cette année radiophonique. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été à l'écoute au fil des 38 épisodes de La Vie en BD. Peut-être qu'on aura également quelques contenus exclusifs en balado qui seront disponibles sur lavieenbd.com au fil des mois de l'été et en route vers septembre. Alors, jetez-y un coup d'œil là-dessus et sur nos médias sociaux, en vous rappelant que l'ensemble des émissions de l'année sont également disponibles pour rediffusion, donc toujours sur notre site web. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Passez un excellent été.